Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h06, on est dans le Super Moscato Show. On est là, vous le savez, comme tous les jours, on est là. On est là de 15h à 18h, tous les jours, du lundi au vendredi. Vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie. Alors là, bien sûr, les scores sont tombés, vous êtes des millions, à écouter aussi nos podcasts. 5, 6 millions, mais ça tombe comme à Gravelot. On vous en remercie. Et c'est pas grâce à Stephen Bray qui est avec nous. Comment il va ?
Salut Vincent.
Le Stifoulé.
Comment ça va ? Dernier jour de la semaine, t'es content ?
Ouais, ça va, tranquille.
Tu vas plonger ?
Tranquille.
Physiquement.
Non, je suis bien. J'ai fait une belle sieste.
Alors, c'est de la radio, mais t'as mis le même t-shirt que mardi, c'est normal.
Oui, mais parce que je l'ai lavé. J'en ai lavé. Dis-toi bien un truc. D'abord, je les ai pas payé cher, j'en ai une pile. Et quand j'arrive, je fais pas le voyage à vide. J'en prends une pile, donc parfois, ça peut être pas tout à fait les mêmes.
Très bien.
Eric Dimeco, monsieur de Fursac. L'élégance marseillaise.
Voilà,
Steve, comment ça va ?
Steve, tu es prêt à chanter ? Attends, Sif, écoute-moi, on y va.
Allez, vas-y.
En bande organisée, personne peut le canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Astaruega faisant un. Astaruega faisant un. Astaruega.
Astaruega. T'es de meilleure humeur que mercredi, par contre. C'est bizarre.
C'est bizarre, la vie. Comme quoi, il suffit que le vent s'arrête. Il suffit que les gens soient heureux dans la rue. Et voilà.
Puis le vent là-bas, il y en a quand même. Quand ça s'arrête,
là, ces derniers jours, ça rend dingue le vent. Là, ce matin, écoute-moi, c'était grand bleu, pas de vent, les gens, le sourire. Voilà, c'était beau. Même les chiens, ils étaient heureux. Là, j'ai croisé les chiens, ils chantaient.
Ah non, mais c'est pour ça que les mecs en bord de Méditerranée sont tous frappadingues. Et le pire, c'est que les parpillants, je vais te dire que les cornards, ils souffrent là-bas. Je vais te dire qu'ils ont mal au cou.
Le pire, c'est Avignon, le pire.
Ouais, Vincent, on a un homme heureux, Eric Dimeco, oui, aujourd'hui. Avant de vous dérouler le programme du Moscato Show, question moyenne pour les Marseillais, pour Eric, pour vous, Eric, une question moyenne. Ah
oui. J'espère que c'est pas celle que. Parce que j'en ai imaginé une.
Vous allez tirer.
J'en ai imaginé une, mais j'espère jamais que tu la poses.
Je prends des pincettes, il est 15h09. Chers supporters marseillais. Ouais. Vous préférez cette saison gagner la Ligue Europa, mais en même temps, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions.
Oui. Je te jure, je te connais par cœur depuis 17 ans, t'es une salope.
Merci, pas de gros mots, Eric.
Non, je le dis, je m'en fous.
Ou que personne ne gagne un titre européen cette saison entre ces deux équipes.
Là, ils sont partagés, je te le dis.
Alors, selon toi, Eric, ton sentiment,
le titre.
Le titre, mais pas le
PSG.
Oui, c'est une semaine avant. Pendant une semaine, on fait la fête. Et en plus, ça va atténuer parce que Paris, à un moment donné, ça va tomber. Et puis dis-moi, on va pas vivre tout le temps sur les échecs des autres. À un moment donné, il faut gagner.
Ça commence à faire là. Ça fait 15 ans.
C'est pour ça. Dis-moi, hier j'ai vu des petits pleurer. Tellement de bonheur. Donc il faut continuer
pour
le bonheur.
Pour un cadre qui est à
Marseille, ils pleurent pas quand ils regardent leur bulletin de scolaire de joie. Ils pleurent pas de joie.
Chers supporters marseillais, vous êtes les bienvenus au 32-16 et vous votez sur X.
Je savais que tu allais la sortir, ça, là. Je te connais trop.
Les Marseillais nous répondent, Eric, à 67%, comme toi, gagner la Ligue Europa et pas chez champion, voilà.
Une semaine de fête.
L'armoire à trophée, elle commence à être
de l'OTAN et la poussière. Le titre serait gâché quand même, une semaine après.
Non,
mais il y aurait un rendez-vous extraordinaire, c'est la Super Coupe d'Europe.
Entre Paris et
Saint-Germain, la Ligue de Marseille.
Ah ouais. Et puis ce matin, j'étais à 8h10, oui, chez Charles, tu as tenu. Donc il disait, ah mais on m'a gagné tous les deux et tout. Je dis, bah oui, alors allons-y, défilons ensemble pendant que tu es pour rigoler. Et le mieux pour passer une bonne soirée quand tu défiles, c'est de défiler au milieu à Lyon, tu vois,
Macron qui adore les commémorations, il peut faire monter l'équipe de Marseille, lui qui est supporter de Marseille, pour défiler sur les Champs-Élysées.
Bien sûr.
Mais bien entendu. Ce serait magnifique, Eric.
Le Super Moscato Show, tout de suite. Emiliano Martinez est-il définitivement le plus fort? Il a fait mal au Lillois hier. C'est un cancre, mais un cancre qui gagne. 16h. Luis Enrique est-il en train, finalement, de réussir son pari? Vincent, tu règles le problème de Luis Enrique. Tu l'as encensé au début, tu l'as un peu pourri ces derniers jours. Et finalement,
je l'ai pourri le dernier jour parce qu'il mettait des équipes un peu incompréhensibles. Bien sûr qu'il a réussi. Hein. Il n'y a qu'une vérité, c'est le terrain.
Et à 17h, le grand moment. On vous attend au 32-16. Supporters marseillais à Marseille, le rêve est-il permis? Oui, on peut le dire, Eric, le rêve d'un titre européen. Marseille est à trois matchs d'un titre européen et donc de la Ligue des Champions, de la qualification pour la Ligue des Champions.
On oublie ça, c'est-à-dire que là, la saison, d'un coup, elle est réussie.
C'est une des saisons les plus belles de l'histoire du club.
Et d'un coup, Longoria est exceptionnel.
C'est quand même étrange. Vous ne gagnez pas un match, le championnat. Et puis la résurrection, c'est incroyable.
Il y a le Kikadi.
Le football, parfois,
17h45.
Ça n'existe pas dans le rugby, ça. Le Kikadi.
Comme tous les jours, le Kikadi à 17h45. Cette semaine, vous allez en remporter un week-end de divertissement de deux nuits. Deux personnes pour deux personnes dans un hôtel casino Partouche.
Et vous avez tout fait hier au Kikadi pour que l'OM ne gagne pas.
Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Kikadi par SMS au 732-16. Aujourd'hui, vendredi, avant de partir en week-end, pour vous mettre très bonne humeur, on a un magnifique cadeau à vous offrir. Ça peut tomber à tout moment dans l'émission. Restez bien à l'écoute.
C'est quoi ?
C'est un cadeau. Si vous le gagnez, vous allez prendre l'avion.
Mets-nous sur la piste un peu.
Vous allez prendre l'avion gratuit pour aller dans une destination de rêve
à Wembley,
pour pratiquer une activité très très sympathique.
La Géorgie, la Roumanie, l'Allemagne,
beaucoup plus
l'Ukraine.
C'est méditerranéen, hein, Vincent.
Ah, c'est méditerranéen, la Grèce.
Donc attention, si vous écoutez le Moscato Show jusqu'à 18h, vous pouvez éventuellement partir en avion, payer gratuit. Dans un endroit très sympa.
Tu même l'hôtel, il est payé quand t'arrives là-bas.
Tu veux l'indice, Vincent? Tu veux l'indice?
Vas-y. Je vérifie, Vincent, parce que je sais que tu es méfiant. Il y a le vol et l'hôtel compris.
Ah bah oui,
alors attention. Ça peut tomber à tout moment, c'est moi qui décide. Voilà.
C'est toi qui décide.
Donc soyez bien à l'écoute du
film. T'es un boulard, toi. Tu prends pour qui, toi?
C'est l'euphorie totale. Mais d'abord, avant le cadeau, avant l'OM, avant Luis Enrique, Aston Villa, LOSC Aston Villa hier soir. Et encore une fois, Dibou l'aura tout fait.
RMC, le Super Moscato Show.
C'est terminé. Séance de tir au but à venir. 3 partout sur l'ensemble des deux matchs. Nabil Bentaleb, le Lillois, c'est parti. Et c'est arrêté. Il est parti du bon côté.
Et il va prendre 1, 2, 3, 4 fois. Monsieur Martinez, c'est joli.
Attention, carton jaune pour Emiliano Martinez. Il a déjà pris un jaune.
Et là, mais voilà, j'ai le deuxième jaune.
Non, mais je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il a rien
incroyable.
Fait.
Incroyable. C'est lui qui a dégagé le ballon.
Non, c'est Bentaleb.
Qui prend un jaune?
Mais c'est arrêté! C'est arrêté! Aston Villa va en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ah, que c'est dur. Breaking
news. Terrible pour Lille. Hier, en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, le LOSC a battu Aston Villa 2-1. Grand match des Lillois, Vincent. Séance de tir au but et il a récidivé. Dibou, Emiliano Martinez, le gardien de but argentin, a mangé le cerveau de cet adversaire français du cinéma. Un peu de cinéma. Un deuxième carton jaune sans prendre un rouge. Et deux pénaltys arrêtés. Dibou est-il définitivement le plus fort dans cet exercice d'ailleurs des tirs au but? On vous attend au 32-16. Jean Baumel, vous venez de l'entendre, il a commenté le match. Djibo est avec nous en direct de Lille. Salut Jean.
Salut les amis.
Salut. Une séance de tirs au but pendant laquelle, encore une fois, Martinez a été le personnage principal.
Ah bah même sur l'ensemble de la rencontre, déjà avant le coup d'envoi, les 45 000 supporters lillois attendaient Emiliano Martinez de pied ferme sur la pelouse du Stade Permirois. Écoutez. Alors impuissant sur les deux buts de Yazice et André, et le gardien argentin a en revanche fait le show pendant la séance de tir au but. Danse devant les tribunes, discussion avec les tireurs lillois, tenter de déstabiliser ses adversaires, une habitude pour le très chambreur gardien champion du monde. Jonathan David nous explique un peu le rôle de ce gardien, l'attaquant lillois.
Il aime déconcentrer, comme on l'a vu sur le premier tir, qui court pour aller chercher le ballon quand il doit juste aller dans son but. Pour lui c'est un jeu tactique.
Olivier Létang, le président lillois, à l'issue du match, regrettait forcément l'attitude du gardien d'Aston Villa.
Est-ce qu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui n'est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant.
Alors sur les sifflets et les insultes qu'il a subies, Emiliano Martinez, lui, a préféré relativiser.
À Arsenal, comme à Aston Villa, j'ai joué avec beaucoup de Français. Ce sont des personnes formidables, je les aime, mais évidemment, quand vous jouez contre eux, il n'y a plus d'amis. Je veux simplement être bon pour mon pays ou pour mon club.
Alors, comme en finale de Coupe du Monde, le gardien de l'Argentine a brisé le rêve des supporters français pour la deuxième fois.
Vincent, si tu es lillois, tu es dégoûté à la fin de la séance de tir au but. T'as envie de lui arracher les yeux.
Non, mais bien sûr, mais après, lui.
Il a tout compris, en fait.
Lui, on peut rien lui reprocher. Je ne comprends même pas l'état. Qu'est-ce qu'il raconte dans l'état?
Il a la rage, c'est normal.
C'est pas un concours de. On n'est pas chez monsieur de faire ça. Les temps sont durs. T'as raison. Très bon, on commence très fort. Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est, voilà, donc à partir du moment où lui, c'est un très bon goal, il chauffe tout le monde parce qu'il sait qu'il va se faire chauffer, c'est devenu un jeu. Lui, il se régale, c'est son moteur. Son moteur, ça lui fait monter l'adrénaline. Mais après, je le comprends, quand t'es goal, tu dois t'ennuyer un peu. Quand t'es pas un joueur de chat, des fois, tu dois trouver le temps long. Lui, il a trouvé une occupation. Il fait un show. C'était turbulent. Soit c'est turbulent, les goals. Mais parfois, lui, il fait le show, il adore ça. Il y a des joueurs comme ça qui aiment faire le show. Écoute-moi, il le fait. Il est bon. Il embrouille tout le monde. Il a peur de rien. Les sifflets, ça lui file, ça lui gonfle le cœur. Au moins, on se dit, moi, je suis aimé.
Ça nourrit même.
Ça nourrit, mais ça nourrit complètement. Il se régale.
Il est sifflé,
mais les mecs, ils comprennent pas. Après, les supporters, des fois, les temps, quand même, comment tu peux dire des trucs comme ça, les temps.
Parce qu'il est sur le. Il est énervé, Vincent.
Non, mais qu'il soit énervé. Oui, mais un président a commencé par lui. Comme il fait une leçon de profondeur, d'objectivité à un goal qui a 25 ans ou 30 ans, enfin un gamin, lui, justement, tant que. Il ne devrait, s'il est en colère, il ne devrait même pas en parler. Ouais. Bon, alors après, bien entendu, on lui parle.
La frustration, la frustration
le comprend complètement.
Il y a une mène à la surface, oui, c'est ça.
Mais, la deuxième fois, ça va être long, donc quand même.
D'ailleurs, une petite précision, l'État, il va être mou.
Jean-Pomel, Djibo.
Oui, une petite précision, parce que vous l'avez entendu, à un moment, il prend un deuxième carton jaune, Emiliano Martinez, et on ne connaissait pas la règle depuis la dernière Coupe du Monde. Une fois que ça commence au niveau de la séance des tirs au but, eh bien, les cartons sont remis à zéro. Donc, il sera suspendu pour le prochain match en demi-finale, Emiliano Martinez.
Mais en tout cas.
Non, mais on pouvait imaginer que ce soit un rouge, parce que dans deux jaunes, il y avait déjà pris un jaune. Et là, la règle, en fait, c'est qu'on remet tout à zéro lors de la séance des tirs au but.
Et là où il est fort, la règle, il la connaissait, la règle.
Eh bien, oui, c'est ça qui est fort, ça énerve encore plus.
C'est surtout que ça profite au futur adversaire d'Aston Villa. Du coup, la règle, tu dis qu'elle a changé quoi?
Après la Coupe du Monde.
Après la Coupe du Monde, ouais.
Ah, donc ça veut dire que c'est une règle qui a été faite pour lui, parce que c'est là qu'il est pénible en réalité.
Mais c'est pour ça que tout le monde est furieux.
C'est pour ça que c'est le seul qui l'a connaissé, la règle.
Non, mais c'est un génie. C'est qui connaît la règle, il s'en est servi. C'est
bien sûr. Non, mais pour revenir à cette histoire-là. Hier, on a fait le débat sur les sifflets et tout ce qui allait se passer contre lui. Et on était, alors peut-être pas tous d'accord, mais on était d'accord que tant que ça dépassait pas les bornes, c'était de bonne guerre, ça fait partie du folklore. Il le cherchait à plus, il s'en nourrissait. On l'a dit. Donc je parle sous le contrôle de Gibo, j'ai l'impression que les supporters lillois ne s'en sont pas privés. Et ils étaient même fiers de venir au stade pour le chambrer. Sauf que tu peux pas non plus pleurer derrière quand ça tourne mal pour toi si le mec il te rend le chambrage. Tout ce qui se passe sur le terrain, moi, pour moi, il y a pas de souci. Moi, j'avais pété un câble après la Coupe du Monde, rappelez-vous, c'est par son comportement après, c'est-à-dire que quand tu as gagné le titre de champion du monde et que tu as fait le match qu'il a fait, que ce soit sur le terrain où il sort la balle de Kolo Muani, voire même au penalty, tout ça, il y a pas de souci. Et même s'il use d'artifice, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je ne supportais pas, c'est les gestes qu'il a eu sur le podium, où je comprenais pas comment quand tu es champion du monde que tu puisses faire un truc comme ça. Ouais. Et derrière, lors des défilés, ça c'est hors du truc.
Après,
mais
tu vois
là, sur le terrain, si tu te sers, il est rentré dans le cerveau des Lillois.
Exactement.
Parce qu'en plus, quand tu te pointes devant lui au pénalty, tu sais qu'il est bon au pénalty. On le sait, on a payé cher avec l'équipe de France pour voir qu'il était bon au pénalty. Et derrière, en plus, c'est le premier qui sort. Le premier, il sort. Voilà, c'est ça. Donc en plus, il rentre dans la séance de tir au but, il sort le premier. Et là, ça y est, il fait son cinéma, il est rentré dans le cerveau. Et je vais te dire, devant la télé, je me suis dit, s'ils se sortent de cette embrouille, les Lillois, ils seront très forts parce qu'il leur a mangé le cerveau. Eh bien, c'est de bonne guerre. Et le petit chevalier en face qui a fait un match énorme aussi, et même une séance de tir au but, eh bien, peut-être que, en voyant Martinez faire ce qu'il fait, alors, tu changes pas ta personnalité. Sauf qu'à un moment donné, sans faire ce qu'il fait lui, quand tu es gardien et tu es jeune gardien, tu te dis, oui, sur des moments comme ça, il faut que j'arrive à rentrer dans le cerveau des autres. Alors ça peut être d'une autre manière, hein, de sa manière de te comporter, je sais pas, mais ça me fait ce qu'il fait, parce que lui, c'est même pas calculé, il est comme ça. Mais derrière, alors je comprends les temps, le match, tu gagnes 2-0, tu fais un grand match, tu prends un but, casquette, à la fin, il y a une main, je comprends pas comment un centre qui arrive de l'autre côté, qui traverse toute la défense, qui va taper la main d'un défenseur, comment il peut pas y avoir main avec la VAR. Expliquez-moi la règle des mains dans la surface, je ne les comprends plus. Je ne sais plus s'il faut. Alors quand c'est trop près, quand tu envoies le ballon sur une main qui est un peu décollée, si c'est trop près, ils disent que le ballon il est trop machin. Là, c'est ça de parachute de l'autre côté. Et le mec, comment c'est possible? Et donc c'est normal qu'il ait les nerfs, les temps. Alors il les passe sur Martinez parce que c'est la cible facile. Mais il se trompe.
Je préfère la réaction de Fonseca qui a juste dit
c'est un grand gardien.
Il a été exceptionnel.
Il l'avait déjà été au match.
Oui. C'est même lui qui plie la rencontre à l'aller-retour. Hein. Si Aston Villa se qualifie, c'est grâce en grande partie à Dibu Martinez. Mais Eric l'a dit, la séance de pénalty, il y a bien sûr l'aspect technique, la façon dont tu frappes. Mais c'est avant tout une épreuve psychologique. C'est une épreuve psychologique. Celui qui est le meilleur, celui qui arrive à garder son sang-froid, celui qui arrive à ne pas être perturbé parce qu'il y a en face de lui. Et Dibu Martinez, il gagne tout. Il gagne tout parce qu'en face, il y a des tireurs qui peut-être sont un petit peu fragiles, frileux. Il faut arriver à faire abstraction.
C'est
un bon gardien. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dibu Martinez, il est en train de construire sa carrière et sa réputation alors qu'il a 31 ans, qu'il n'a jamais joué dans des grands clubs. Il a appartenu à Arsenal pendant 10 ans, il a été prêté pendant X années.
Parce que ce n'est pas un grand gardien comme on l'entend.
Ou alors, progression, il sera sélectionné avec
l'Argentine à 28 ans, donc c'est très tardif aussi. Ouais. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu as l'impression qu'il fait partie des meilleurs gardiens du monde alors que même pas, c'est juste qu'il a une personnalité qui est différente et il se démarque avec ça.
Peut-être qu'il fait la différence maintenant depuis la Coupe du Monde. Il a pris une confiance énorme. Et la confiance chez un gardien, c'est primordial. C'est 50%.
Hein. Bien sûr.
C'est l'anticipation, mais de rentrer, tu le disais, Eric, de rentrer dans la tronche du mec en face, qu'il ait quand même le pied qui tremble, la tremblote, c'est quand même très important. Et lui, il le fait à merveille. Il a pris confiance. Il déborde. C'est vrai que contre l'Argentine, c'est bien après le match, une fois que c'est fini, boum, c'est fini.
Profite de ton titre.
Et surtout, rends hommage à tes adversaires. Enfin, moi, il me semble que c'est la moindre des choses. Alors, si tu veux pas leur rendre hommage, tu te tais. C'est vrai qu'il avait débordé un peu, mais bon, écoute-moi, je préfère l'avoir avec moi, lui, que
contre. Mais pourquoi le déteste? Parce que c'est pas le gardien de notre équipe, en fait.
Et puis, ils ont joué, les Lillois. Ils me l'ont pourri. Tu les as vus, les mecs qu'on avait? On va les pourrir, on va l'insulter, l'acquiser, tout ça. Écoute-moi, la carotte, asseyez-vous dessus.
Dibu Martinez est-il le plus fort, finalement, dont on s'inclinait, nous, les Français, devant le gardien de but argentin? Simon est avec nous au 32-16. Salut, Simon.
Salut, l'équipe, comment ça va?
On s'accroche, voilà.
Avant de commencer, je vous fais un petit Ounia section.
C'est posé, rien que ça, c'est posé, Ounia section.
Tu as oublié la marche arrière.
Ça t'a oublié la troisième partie.
Simon, est-ce que tu es fan ou pas de Dibu Martinez?
Alors, comme 99% des Français, je pense que je le déteste. Il est infernal, il est imbuvable.
C'est les ondes de Martinez.
C'est Dibu Martinez. Il en a marre qu'on parle de lui.
Écoute-moi, c'est un druide. Il a une espèce de poids, finalement.
Il est chouette.
Et toi, sur les temps, t'as rien à dire?
Moi, je comprends qu'ils soient un peu fâchés parce que tu viens d'être éliminé, les temps sont durs.
Ouais, ça va être long aujourd'hui. Simon, tu es de retour.
Mais alors, après avoir dit ça, parce que même malgré tout, je pense que si un jour, s'il était un peu plus jeune, je pense que même ça serait compliqué pour lui de venir jouer en France, parce que il est depuis la Coupe du Monde. Mais après avoir dit ça, si on parle techniquement, vous avez des gardiens dans votre équipe, Pascal Olmeta, Lionel Charbonnier, etc. C'est que ça reste quand même, si on regarde son jeu et les arrêts qu'il fait, les matchs qu'il fait, je suis désolé, pour moi, ça reste un très très grand gardien. Il est juste monstrueux. Hier, il fait encore des arrêts, il fait un arrêt de la tête à bout portant, il est à moitié assommé. Le match dernier, le week-end dernier, il fait un gros...
Celui-là, il a fait un arrêt du nez, ça se travaille pas, celui-là.
En général, tu t'évites, tu travailles à l'éviter, celui-là, parce qu'il fait mal.
Et je pense que si c'est Pirot d'Orient, il aurait crevé le ballon.
C'est sûr.
Non, mais après avoir dit ça, ça reste quand même... En plus, je pense que il grandit son talent, il grandit sa mentalité avec ça. En plus, il arrive dans le stade, tout le monde le cite, tout le monde le déteste. Et je pense que tout ce qu'il veut, c'est ça.
Il est bien à Marseille. Match.
Ah oui.
Ouais. À Marseille, il est impeccable, comme un gars.
Il finit.
Le public l'adore.
Le niveau intellectuel, pareil.
Mais non, parce que depuis hier, Eric, Marseille est un très grand gardien. Hein. Ça y est, c'est l'idole, Paulo Lopez.
Il était bon.
Hein.
Ah oui, était
aussi, bon. Aussi. Et tu sais, l'autre jour, quand est-ce qu'on faisait le débat sur les pénaltys, les travailler, tout ce que tu veux. Tu peux, regarde ce qui s'est passé hier soir, que ce soit avec l'OM et avec Lille. Mais non, mais expliquez-moi comment tu peux à l'entraînement retranscrire ce qui s'est passé hier soir dans les deux matchs, soit avec un gardien comme Martinez, soit le contexte de l'OM. Regarde, même Di Maria il rate le pénalty. Tu crois qu'il en a pas raté des pénalty, il en a pas tiré des pénalty. Donc c'est de la saucisse ces histoires-là.
Paul Lopez, on l'aime pas nous à Paris.
T'as vu comment
ça s'est retourné.
C'était bon. Je pense que tu pouvais pas le voir, Eric. C'est dingue ça.
Merci.
Ah écoute, écoute, c'est bizarre parce que quand ils sont pas bons les mecs et qu'on dit qu'ils sont pas bons, c'est vrai que c'est difficile. Hein,
Merci Simon de nous avoir appelé au 32-16 et allez la section. On parlait d'un champion du monde, Emiliano Martinez. Il y a un champion du monde et un champion olympique qui arrive, Monsieur Olivier Crombol, sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, qui est dans nos studios. Il arrive, Vincent, et tu vas lui expliquer. Non, il va t'expliquer comment il va devenir champion olympique pour la deuxième fois.
Moi, je vais pas lui expliquer.
Tu as un petit conseil de motivation, je sais pas.
Oui, super. Il connaît un peu plus que moi. 15h26, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h31, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Vous savez qu'on est là tous les jours, de 15h à 18h, du lundi au vendredi. Steve Founébray, Eric Dimeco, Adrien Egouin, mon petit Adrien. Dans demi-heure, fais-moi claquer, c'est le programme, hein, comme on dit en espagnol.
Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est-il en train de gagner son pari, de convaincre les sceptiques, peut-être comme Eric Dimeco, qui l'était depuis quelques semaines.
Oh, c'est pas moi le pire. Hein.
Ouais. Non, c'est pas toi le pire. Non, et puis toi, parfois, tu sais évoluer dans ta vie, Eric.
On avait quand même deux voisins dans le studio, entre Denis et Pierrot.
Luis Enrique, pour l'instant, il est quasi champion de France. Ouais. Il est champion de France, il est en finale de la Coupe de France.
Tu l'aimes bien, Tu l'aimes bien.
Mais avant Luis Enrique, à 16h, à 17h, on parle de l'OM. L'OM, c'est la star de la semaine avec le Paris Saint-Germain. Mmh. Demi-finale européenne également. Les JO, Vincent.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Les JO de Paris 2024, c'est dans, Vincent, combien de jours?
98.
98 jours. Il rêve.
Moi, tu me le dis, je te le dis.
Il rêve d'un titre olympique après Tokyo en 2021, d'un deuxième titre olympique, un doublé. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, Olivier Crombol, c'est avec nous dans le Super Moscato Show. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Comment il va?
Salut.
Bien.
Ça va, coach? T'es en forme?
Ouais, très bien. On sort de deux semaines de travail, là.
Ouais, ça va.
Pas mal, ouais.
J'ai lu que vous pensiez, ça y est, aux JO tous les jours. Tous les jours.
Ah mais un peu plus même.
Combien de fois par jour?
Bon, on y pense tout le temps.
Tout le temps?
Ouais, on y pense tout le temps. Par contre, on n'est pas pressé que ça arrive, hein, parce qu'on a du boulot encore.
On va en parler.
Non mais quand tu vis les JO, c'est quelque chose de tellement magique, c'est obsessionnel.
C'est comme une Coupe du Monde pour un sport collectif.
À Paris, ça doit être un enfer. À Paris, si t'imagines, tu veux être médaille d'or, t'es déjà médaille d'or, tu veux l'être à tout prix. Ça doit être une pression supplémentaire terrible.
Ah, énorme. Nous, on a tendance à considérer que les JO, c'est au-dessus de tout. Alors, comme c'est à Paris, c'est encore multiplicateur, on va dire.
C'est pas
un fois plus important que d'habitude.
Olivier, ça y est, les Jeux, donc c'est parti pour vous. Ouais. Cette semaine, c'était le tirage au sort du tournoi olympique.
Qu'est-ce qui a changé, Olivier, toi qui as connu les premiers JO à Paris?
Il y a Santa.
Ça a changé depuis un peu.
Les JO, c'est parti. Donc, cette semaine, c'était le tirage au sort du tournoi olympique. Et vous avez choisi votre groupe. On en a parlé en début de semaine avec Guillaume Gilles, votre homologue chez des hommes. C'est une particularité du handball. Quand un pays reçoit une compétition, vous avez le choix du groupe. C'est comme ça. Et puis, on le prend. C'est très bien. Le groupe A, c'est la Norvège, Allemagne, Slovénie, Suède, Danemark, Corée du Sud. Le groupe B, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, le Brésil et l'Angola. Je résume, je caricature, vous avez choisi le groupe le plus facile.
Oui.
Pourquoi cette stratégie? Pourquoi pourquoi démarrer dans le confort?
C'est pas démarrer dans le confort, c'est-à-dire que si on prend le groupe A, toutes les grosses équipes sont dans le groupe A, on va cravacher à chaque match avec un côté très aléatoire en termes de place. À l'idéal, c'était le Danemark d'un côté et la Norvège de l'autre. Ouais. Et moi, je partais dans la poule de la Norvège pour être certain de ne pas les prendre en quart. Donc là, il faut très bien se classer. Je pense que la Norvège va faire premier ou deuxième. Il faut très bien se classer pour pouvoir les éviter. Si on fait premier, on évite le premier de l'autre poule jusqu'au bout. Ça, c'est un objectif.
Mais en tout cas, il y a l'assurance d'avoir un quart de finale très solide qui pourrait être une finale.
Oui, c'est le danger de ce choix. C'est qu'on va avoir effectivement un quart de finale. Là, ça va être très chaud.
Sans vraiment pouvoir se jauger au très haut niveau en poule.
Si. Attendez, il n'y a pas que des tocards dans la poule.
Allez jouer toi, Stephen.
Il y a la Hollande, il y a l'Espagne. Non, il y a des bonnes équipes. Notamment la Hollande, c'est tout proche du niveau des meilleurs. Donc on aura quand même des matchs.
L'Espagne, c'est une bonne équipe, l'Espagne.
Très difficile à jouer.
Et pour vous,
ça vous colle au basque là, c'est très difficile à jouer.
Pourquoi tu te rends compte, Vincent, la phase de groupe est à Paris et le quart de finale, tu passes dans une autre dimension. C'est-à-dire que si tu joues une belle équipe, très dure, tu vas à Lille au stade Pierre Mauroy. Dans une ambiance de folie. Enfin voilà, c'est aussi un contexte à appréhender. Quart de finale sera vécu déjà comme le grand moment des JO, quoi.
Oui, on a déjà joué avec les garçons au stade Pierre Mauroy sur le mondial 17, et c'était un événement extraordinaire. On compte sur le public. De toute façon, nous, on a bien l'intention de surfer sur l'ambiance et de tirer profit à la fois du soutien de notre public, mais aussi de la surmotivation que l'on a par rapport à jouer en France. Très honnêtement, on ne va pas faire de cadeaux.
Les championnats vont s'arrêter. Vous partez combien de temps en stage ? Vous partez en stage, vous avez quoi ? 15 jours, 3 semaines ?
Un peu plus, on va se retrouver le 12 juin. Il nous manquera quelques filles qui vont faire le Final Four. On leur laisse quelques jours de plus pour récupérer. Mais on a fait le choix de commencer tôt, très tôt. Après, on fera des petits breaks. On fera un peu de team building, des choses un peu sympas. Mais on va beaucoup travailler.
Parce qu'elles sont en fin de saison, il va falloir quand même gérer la fatigue. Ouais. Avant de recommencer peut-être une mini-préparation.
Ouais, jeu à Paris, pas de fatigue,
ouais. À la suivante.
Olivier Crumbles, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, à 98 jours des JO, est avec nous dans le Super Moscato Show. Stephen.
Ouais, Olivier, tu disais, à Paris, c'est particulier. En 2021, c'était à Tokyo, il n'y avait personne. À Rio, c'était au Brésil, donc il n'y a pas forcément de sollicitations. Comment tu fais pour gérer toutes les sollicitations, la famille, les amis, les places et tout ça, en étant à Paris? C'est un truc à prendre en compte, ça?
Ouais, vous savez, je suis revenu en 2016, et depuis que je suis revenu en 2016, on a quand même beaucoup structuré autour de l'équipe de France. Le handball français, c'est pas un sport très riche. Par contre, on met les moyens sur les équipes de France. On a des staffs qui sont très étoffés.
D'où les résultats.
Et on compte bien aider les joueuses à tout gérer. Alors après, c'est pas facile. Il est bien évident que ni en termes de billetterie, ni en termes d'hébergement. Mais vous savez, l'hébergement, déjà à Londres, on s'est rendu compte que les prix augmentent énormément un an ou un an et demi à l'avance. Et puis, il y a une offre hôtelière de folie à Paris comme à Londres. Et je ne suis pas certain que le public olympique va suffire à remplir tous les hôtels, alors que la plupart des touristes lambda ne veulent pas venir pendant les Jeux Olympiques.
Olivier, vous allez
avoir des bonnes surprises en termes de prix au tout dernier moment.
Vincent.
Justement, tu parlais de 2016. Souvent, on parle de la remise en question des joueurs, des joueuses, bien sûr. Toi, tu t'es remis en question. Tu avais été dans le conflit avec ces filles. Tu t'étais un peu déchiré. Et puis ensuite, il y avait un point d'arrêt. Tu avais dit, bam, tu te casses. Et puis voilà. Et puis tu es revenu. C'est une remise en question parce que les générations parfois passent. C'est difficile de s'adapter.
Ouais, alors après, quand j'ai été évincé en 2013, on a beaucoup dit que c'était parce que les joueuses en avaient marre. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors après, on avait déjà commencé en 2011-2012 à opérer un mouvement. Je pense que Claude Onesta a montré la voie sur le coaching participatif. Mais quand je suis revenu en 2016, c'est vrai que j'avais modifié beaucoup mon coaching. Et on est passé sur autre chose. Plus calme, plus bienveillant, plus ouvert avec les joueuses, plus de partage. Même si on pourrait parler longtemps du coaching participatif et que c'est pas la suppression de l'autorité.
C'est
pas non plus la prise de pouvoir des joueurs.
Olivier, vous avez
vous votez pas pour les capitaines, tout ça ou...
Non.
Vous venez de dire, on va beaucoup travailler avec l'œil un peu noir, puisque vous sortez d'une phase d'un bloc de 3 matchs. Le dernier match s'est passé difficilement face à la Roumanie, victoire 30-28. Après le match, vous n'étiez pas content. Je vous ai entendu dire il n'y a pas si longtemps que ça, le succès rend fou. Vous êtes championne du monde en titre. Pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. C'est dur de toujours tout gagner. Elles se relâchent un peu, les filles. Comment ça se passe là?
Vous savez, quand vous gagnez et que vous avez l'impression, on s'éloigne jamais aussi loin que lorsqu'on croit connaître la route. Donc à un moment donné, quand vous finissez par peut-être être un peu suffisant parce que vous avez gagné, c'est dangereux parce que ceux que vous avez battus, eux, ils sont pas suffisants.
Donc piqûre de rappel les derniers jours là.
Voilà, et ils se battent. Et là, on a par exemple, on a joué une jeune équipe roumaine qui commence à construire son aventure, qui a joué sans complexe et qui a mieux joué que nous. C'est un bon avertissement. Mais il y a une autre image aussi, c'est quand vous êtes monté tout en haut de la montagne. Et que vous voulez remonter sur l'autre montagne, il faut d'abord descendre la première. Il faut que le boulard,
T'as compris, Eric ?
Il baisse un petit peu.
À part si t'as un fil et une perche.
Oui, alors là, oui, ben c'est ce qu'il faut chercher, de toute façon. Toujours sur le fil du rasoir.
Olivier Crombols, invité du Super Moscato Show avant les JO, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball. On reçoit beaucoup de messages dès qu'on parle de l'équipe de France, et quand on vous reçoit, qui concerne une joueuse qui est populaire, Cléopâtre Darleux, gardienne de but, qui joue à Brest, Vincent, qui a été absente 13 mois suite à des commotions cérébrales, suite à le ballon pris dans la tête. Qu'en est-il avec elle, à son sujet? Est-ce qu'elle peut encore faire les jeux? Est-ce que vous discutez régulièrement avec elle? Elle a repris la compétition avec son club.
Oui, mais on discute régulièrement avec elle, bien sûr, le médecin plus que moi. Elle va bien en termes de santé, c'est déjà l'essentiel pour elle, hein, parce qu'elle a eu des symptômes pendant longtemps. Elle va bien, elle a repris depuis un bon moment. Mais nous, par rapport à l'équipe olympique, on a besoin d'être rassurés sur son niveau de jeu. Et on a besoin qu'elle joue. Il y a trois gardiennes à Brest. Et
on rappelle que c'est un groupe réduit pour les Jeux, c'est 14 joueuses, c'est ça,
hein. Oui, c'est 14 joueuses et non pas 16. Avec trois remplaçants. Donc, au jour le jour, on attend la reprise du championnat.
Olivier, excuse-moi de te couper.
Oui.
Mais les commotions, on en parle beaucoup dans le rugby, on n'en parle pas même au foot pour les têtes. Au handball, à la vitesse où vont le ballon, les goals sont dangereux. Pourquoi vous ne mettez pas un casque?
C'est une bonne question.
Pourquoi ne mettre pas un casque?
Est-ce que les commotions deviennent un vrai sujet dans le handball? Les commotions,
c'est sûr. Les commotions, ça devient un vrai sujet dans le handball.
Je ne dis pas des joueurs de champ, à la limite, mais les goals quand même qui sont sollicités quand même en permanence, parce qu'il y a un tir au but toutes les 30 secondes au handball. Ça arrive vite, tu le prends dans la tronche. Les nanas, elles ont quand même moins, même si c'est des nanas sportives, elles ont moins de cervicales que les mecs. Ça secoue quand même.
On a posé la question à des spécialistes qui nous disent que, pour l'instant, le premier avis, c'est que le casque ne changera pas forcément. Alors, il n'y aura pas l'impact sur le visage, mais il y aura quand même l'impact sur le casque. Et à un moment donné, ils disent que ça pourrait donner la même chose. Mais moi, je crois qu'on y arrivera.
Non, moi, sur la tenue, je crois
qu'on y arrivera.
Déjà, ça t'empêche. Bon, alors, le ballon ne fait pas de coupure.
Non.
En boxe, pourquoi on met le casque? Parce que d'abord, ça atténue les coups.
Et les coupures.
Alors, ça n'atténue pas 100% des coups, mais même 20, 30%, 40%. Ça t'empêche des fois de faire un KO. En plus, bon, les coupures, bon, en boxe, tu peux être arrêté. Après, si t'es coupé en match, tu peux être arrêté. Mais je suis sûr que ce serait un point positif pour les nanas, même pour les mecs, de mettre un casque au moins au gardien.
Ben, ça va être réfléchi, à mon avis. Après, on va le faire ou pas. Je sais que les gardiennes disent ouais, ça
et
va
un gilet pare-balles.
Oui, aussi.
Ça va gêner, mais non, ça gêne pas. Tu le mets là, c'est l'habitude.
Quand on est arrêté pendant des mois,
ça gêne beaucoup plus.
Mais là, en plus, t'as des ouvertures jusque-là, t'as les mêmes trucs, et t'es sur les tempes bien protégées, sur les mentons, sur le front, ça t'atténue quand même. Les mecs qui disent, c'est le mec qui dit que ça atténue pas, il en a jamais pris des coups. Tu lui dis, voilà, mets le casque, le tout vide. Tu lui mets une droite, t'enlèves le casque, tu lui dis, tu vas voir la droite que je vais te mettre sans casque. Tu vas voir qu'il va vite remettre le casque.
Hein, merci beaucoup Olivier Crombol.
Merci Olivier.
Petite dernière question pour savoir si vous êtes prêt, la date de la finale olympique pour vous. Vous l'avez coché ou pas?
Je l'ai coché, oui, oui.
C'est quoi la date?
Je ne la connais pas exactement.
Ah,
je crois que c'est le 8, mais.
C'est le 8.
Il ne la connaît pas, c'est le 8. Il sait qu'il y sera.
C'est le 8, je pense.
Évident que, bon, que ce soit le 8, le 9 ou le 7.
C'est dommage qu'on ne peut pas t'avoir plus longtemps. Le sport féminin a évolué terriblement, encore plus que les mecs.
Ouais,
ces 10 dernières années, ça a dû être un truc de fou, non?
Et nous, on est très fiers avec l'équipe féminine d'avoir rattrapé un peu les garçons en termes de résultats et en termes de spectateurs. Ah ouais. On remplit à chaque match en ce moment, même les grosses salles. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour tout le monde.
Et d'avoir dépassé le basket?
Non, je ne sais pas.
Ça dépend. Merci beaucoup, Olivier Crombage, d'être
venu. Merci, Olivier. On croise les doigts pour toi. Bonne chance.
Et on va se croiser de nombreuses fois pendant les JO jusqu'à la finale, on l'espère.
Il a du goût parce qu'il porte une chemise à Eden Park.
Ça, c'est le placement de produits gratuit. C'est interdit, Vincent.
C'est interdit.
Payé pour faire de la pub à la radio.
Tu cites 2 heures.
C'est pour les amis.
Mais oui, mais les amis, il faut payer.
Alors Ferrari, Maserati.
À 16h, on parle de Luis Enrique. Dans un instant, c'est le journal moyen, première édition de Julien Richard.
15h44, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic, il est 15h48, le journal moyen, première édition de Julien Richard.
Et la première édition du journal moyen, c'est l'actu de la culture, des médias, l'actu de Barbie aussi, Barbie qui est dans la sauce, un tatouage cendré, et puis Taylor Swift dans le Super Moscato Show dans quelques instants. Et oui, carrément. Vous écoutez RMC, c'est le 1802e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen.
Première édition. Avant de commencer, on pourrait remercier Eric pour toutes ces belles questions qu'il a posées à Olivier Krembeut.
Ah, écoute, vous m'avez pas donné la parole. J'ai écouté vos questions bidon alors que j'en avais une bonne, moi, mais on m'a coupé mon micro, donc à un moment donné.
Bizarre que Vincent lui ait jamais demandé si la vanne Crumbles aux pommes, on lui avait déjà
fait. Sans concession. Julien, le journal moyen. Eric, on va avoir besoin de son expertise maintenant. C'est maintenant qu'on l'attend parce que je vais vous faire appel à vos compétences en matière d'audience. Les audiences télé de Marseille-Benfica hier soir, d'après vous?
Les audiences télé de Marseille-Benfica.
C'est quoi? C'est sur quoi?
M6. C'était sur M6, diffusé en clair.
Ça fait beaucoup.
Diffusé en clair.
Alors, ça fait.
Les comédies, ça marche. 80 millions.
4 millions pour Eric.
80 millions.
2 millions 800 000.
Dis-moi, tu as du persil dans les oreilles, toi.
Moi, je te dis, il y a eu un pic.
À 3 millions. On s'en fout du pic, il demande l'audience.
Mais je sais pas, 3 millions. Alors, audience moyenne, en dessous de 3 millions, le pic au-dessus de
2 millions 8, 3,5 de.
Il est là, l'expert. 2 990 000, voilà. De moyenne. 18% de part d'audience. Je parle d'M6 là, hein. Un pic à 3,8 millions.
Ah, il voilà 4 millions, ce que j'ai dit.
Il faut ajouter à cela.
Ah, le pic. On te demande pas le pic, mais moi,
je vous ai fait le cumul. Je vous ai fait le cumul. M6, Canal.
On est entre les deux, parce qu'avec les 517 000 personnes sur Canal, plus Foot qui diffusait la rencontre encryptée, cette fois, en gros, on est à 3,5 millions de moyenne.
4 millions, c'est qui c'est qui a dit c'est moi 2008,
bravo, 20,
on parlait de M6 plus une pointe à 3,5 millions. Écoutez-moi,
encore une fois le Marseillais qui exagère. 4
voilà,
millions
voilà, voilà. Mais là, s'il y avait une... non, mais tu sais quoi, si on avait nous été Marseillais, il n'y en aurait rien d'autre qui aurait dit 4 millions 5 millions. Il aurait ravisé. Eric a dit pourquoi pas, si c'est 2 millions,
pourquoi pas 8 millions.
En moyenne encrypté, le PSG a fait la même chose.
C'est très bien. Non mais c'est très bien, tu te trompes pas. Mais on a beau dire en France, les comédies, ça marche tout le temps, tout le temps.
Attends, c'était pas une comédie hier soir, c'était un drame. C'était
pour un match de Ligue 2, c'est correct, nous.
Bah oui.
Sans transition, un peu de douceur dans ce monde de brut.
Oh, c'est exceptionnel, ça.
Ah, Metallica.
Metallica, effectivement.
Dans ce Yes Matters. J'avais les accords que les enfants.
Je l'imagine très, très bien.
C'est pas un mélange de choses interdites, ça.
Je jouais sur la plage, moi.
L'autre idée, j'avais les accords quand j'étais enfant. Pourquoi je vous passe du Metallica? Vous connaissez donc le chanteur James Hetfield. Metallica, groupe de heavy metal de Californie, c'est une référence. Hein,
bah oui, oui.
James Hetfield qui s'est fait un nouveau tatouage. Alors, c'est pas un scoop, il en a quand même 10 millions. C'est pas le premier. Mais celui-là, il est assez spécial. C'est un hommage à Lemmy Kilmister du groupe Motorhead, mort en 2015. Motorhead, pareil, on va se le remettre dans les oreilles. Toi aussi, tu jouais.
Amusez-vous. Amusez-vous à réécouter God Save the Queen de Motorhead. C'est merveilleux. C'est
la référence pour Metallica, hein, Motorhead. Et donc, James Hetfield explique sur Instagram, même d'ailleurs, que sans Lemmy Kilmister, Metallica n'existerait pas. Et ce tatouage reprend celui qu'avait justement Kilmister. C'est un symbole. Pic, comme l'as de pique, le pic, quoi, dans une croix en fer, sur le majeur droit, pour permettre, je cite Lemmy Kilmister, de faire la nique au monde. Mais ce qui est vraiment particulier dans ce tatouage, c'est que l'artiste a ajouté les cendres de Lemmy Kilmister dans l'encre. Donc là, on peut dire qu'il a Lemmy Kilmister dans la peau.
Non mais Lemmy, c'est un dieu pour beaucoup de rockers. Hein.
Lemmy, ouais. Je vous annonce un truc, les gars, c'est qu'on se fera tous
les cendres de Lemmy.
Un tatouage avec les cendres de Lemmy.
On embrasse Denis qui va très bien, qui nous écoute et qui revient très vite dans le Moscato Show.
On sera à
Forever. Bisous.
C'est quoi, moi j'avais joué sur son décès là. c'est le cote chez les bookmakers anglais.
C'était à 4,5, c'était genre.
Ouais.
Les cendres du leader de Motorhead qui avaient aussi été utilisées pour remplacer la poudre dans des balles. Qui avait été distribué dans des festivals genre le Hellfest ou ce genre de choses.
Hellfest,
voilà. Ouais.
Ça passe, hein. C'est intelligent, ça, les
Hellfest. C'est pas intelligent. Tu te regarderais, toi, Vincent.
Ouais. Non, Vincent, il serait bien. Vincent, il serait bien à Coachella.
Non mais moi j'ai fait un Hellfest en Auvergne, moi, à côté de Clermont-Ferrand.
Ah bon?
Ah ben c'est pas Hellfest.
Ça s'appelle une vraie partie.
Ça s'appelle un Maletti. Ça s'appelle le Maletti, ça s'appelle.
T'as fait un Hellfest, toi?
J'ai fait un truc de St. John's, il y a des dizaines d'années.
Oui. Période agitée ou pas?
Ouf.
Tiens les valeurs.
Je me suis pas
rendu sans transition. Je vais vous faire écouter un truc et vous allez me dire où on est. Perpignan. Presque, on est à Gerland.
On est à Gerland.
Le stade de Lyon, le stade du Loup, ce sont pas les supporters catalans qui ont envahi Gerland, mais les joueurs lyonnais qui se préparent pour leur déplacement à Perpignan.
Ah oui.
Et Fabien Gégenbachar, le coach lyonnais, a diffusé donc dans les haut-parleurs de Gerland pendant l'entraînement la bande son des chants des supporters catalans pour s'habituer, pour les préparer Perpignan-Lyon samedi 17h, guichet fermé, 6ème fois à Mégiral. Ça va faire beaucoup de bruit et donc c'est un match important pour le maintien direct.
Tu vas voir déjà Montpellier, donc, avec ça. C'est ce week-end Montpellier, Perpignan-Montpellier, parce que là les mecs ils
ça c'est Perpignan qui envahit Montpellier.
C'est les Catalans sont chauds quand même,
les Catalans sont chauds, mais c'est une bonne tactique de la part du coach du Loup là. S'habituer au bazar, non?
Mais ça c'est des conneries. Ça c'est pour se rassurer, les coachs ils sont prêts à tout, ils vont se dire ouais alors pas les gars.
Non, mais je veux même pas s'entendre.
Non, mais lui, là, il a dû. Mais Mignoni, il est capable.
Pour annoncer les combinaisons et compagnie.
Mais je vais te dire, il y a des coachs qui sont capables. Je suis sûr que Mignoni est capable de s'habiller en sang et hors l'entraînement pour dire comme si j'étais un coach catalan.
Mignoni n'est plus le coach.
Il est à Toulon, je le sais. Mais...
C'est Dijon Boucher qui est.
Qui est entraîneur à Lyon?
Tu peux pas connaître tout le monde. S'il a joué à Grenoble, il a Grenoble.
Je connais pas cet entraîneur.
Dans un instant, merci.
Si c'était
Julien,
le seul que tu connaissais pas, ce serait bien. Hein.
Rendez-vous à 16h45 pour le journal moyen, deuxième édition. Dans un instant, Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, est-il en train de réussir son pari? On parle de Paris. Et rassurez-vous, supporter Marseille, à 17h, on parle de l'OM avec Eric.
15h56. Le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.